Bonjour à tous.
Et permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
On est dans la récréation.
On vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble.
Moi, j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
Pour moi, un projet, c'est un truc bien, mais je ne croyais pas que ça allait être bien comme ça.
Et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
En fait, le pari, il est là et il est quand même très ambitieux.
Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
Si je vous dis épissure, élève embarqué, ou ramandage, capitaine 3000, est-ce que vous allez trouver dans quel établissement nous allons plonger ? Il s'agit des lycées maritimes. En France, les lycées maritimes sont les héritiers des écoles de la navigation du 19e siècle. Encadrés par le ministère de la Transition écologique et de la mer, ils offrent des formations allant du CAP au post-bac, combinant théorie et pratique. Il y en a 12 en France. Et ils forment des élèves qui souhaitent devenir, par exemple, atomiciens de propulsion pour les sous-marins nucléaires, ou capitaines de yacht, ou aquariologistes, ou navigateurs timoniers, ou bien pêcheurs ou conchyliculteurs. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, vous emmène dans le lycée de la mer Paul Bousquet à Sète. Ce lycée professionnel accueille environ 300 élèves qui étudient dans l'une des 4 filières proposées par le lycée : pêche, commerce, culture marine ou électromécanique de marine. Dans ce reportage, je vous propose un avant-goût de vacances, avec des interviews sur fond de vagues ou de cris de mouettes. Ici, les élèves partagent une passion pour la mer et rêvent de voyager à travers le monde.
Allez. On est parti. Pas froid.
Ah non. Là, on va au port, c'est ça ?
Ouais, en fait, le nouveau bateau du lycée, pour l'instant, on ne peut pas l'amener ici, parce qu'on a un problème d'ensablement à l'entrée du port, là. Et il n'y a pas assez d'eau pour qu'il passe.
D'accord.
Donc, on est obligé de le laisser au petit port de la région. Voilà, donc chaque fois, il faut faire le trafic, de prendre la voiture, faire le camion, d'aller là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça nous permet d'aller en mer.
Oui.
Si le bateau l'était là, on n'irait pas en mer, on pourrait rester que sur l'étang. Donc.
Et vous, donc, vous êtes prof de quoi ?
Ben moi, c'est Timothée. Mon nom de famille, mon prénom, c'est Philippe. Et je suis enseignant, pompe, pêche, navigation.
Et donc là, on est avec 4 élèves qui sont dans quel cursus ?
Alors là, c'est des CAP matelots deuxième année. Donc là, ils sont sur la fin. Hein. Ils commencent déjà à passer les épreuves de leur diplôme. Et là, ça réunit. C'est pour ça que j'en ai que 4. Parce que là, c'est l'épreuve finale de navigation théorique sur l'eau. Donc là, ils ont chacun une épreuve à la barre à faire. C'est quand même largement au-dessus de permis bateau côtier.
Sur la gauche, il y a 2 vannes et on les relève.
Voilà, ça c'est les vannes du moteur électrique.
Ok.
Bon, on va les ouvrir aussi. Ça, tout le monde est capable de le faire.
Ouais.
Ok. Qui c'est qui me remplit le journal de bord là ? Vous l'avez déjà fait ou pas ?
Ouais.
Allez. La date, on est le 10, je crois. Ouais, 10. Ça vient.
C'est à la fin, monsieur.
On verra. Quoi, ils ont eu des notes, disons ?
Ça va être stressé.
10.
Ouais, ça va être stressé.
Bah météo, bien.
Beau temps. Beau temps.
Beau temps. Et t'as de la mer, calme.
Je pense qu'on va avoir un photo. Le vent, tu mets faible. Pour le vent, pour l'instant, du monde. Mais pas ici en tout cas. Peut-être qu'en mer, il y aura un peu de vent d'est, peut-être au sud. On verra.
Le vent du navire.
Bon, on verra après, d'accord. Pendant qu'on navigue, après vous finirez de le remplir, d'accord. Donc j'ai dit noix.
Et la femme. Ça, pas de problème. On est ensemble.
Qui c'est qui se met à la barre en premier ? Ah non, c'est vous qui voyez.
J'y vais. Ça fait un peu de stress.
Vous êtes une équipe, Manara ?
Ouais, ouais.
C'est vous qui voyez.
Pas de problème.
Donc c'est qui à la barre en premier ?
Noah.
Nathan. Et Noah matelot.
Moi Nathan.
Et moi Noah.
Qu'est-ce que vous venez de faire, là, de passer?
Alors, on vient de faire un amarrage et un appareillage, et un homme à la mer. En gros, ça consiste à s'amarrer et mettre le bateau à quai. Et l'homme à la mer, c'est pour secourir une personne qui vient de tomber du bateau, donc pour l'aider au plus vite à remonter.
Ok. Et comment ça s'est passé pour tous les deux, alors?
Ouais, ça allait.
Ça allait. Vous avez l'impression... Vous avez votre note déjà ou pas?
Non.
Non, pas encore.
Et vous avez l'impression que ça s'est bien passé?
Franchement, ouais. La manœuvre, elle était bien. C'était ce qu'on avait vu, quoi. Donc okay. Ça allait.
Mise en route, sécurité, 3 points. On a déjà fait le point. Maintenant, pendant que vous êtes à la barre, je vais vous parler un peu de sécurité. Je vous l'ai dit, je vais vous poser 2-3 questions. Accostage, appareillage, c'est sur 6 points. Okay. Manœuvre d'amarrage, c'est 3 points. Mm-hmm. Voilà, c'est normal, c'est cadeau. Homme à la mer, c'est 4 points. Et après, la navigation, règle, cap, vitesse, tout ce que je vais vous demander, c'est 4 points. Et en tout, c'est sur 20. Ouais. C'est bon.
Donc là, vous faites le CAP, parce que après, vous avez envie de faire quoi comme métier?
Moi, je veux être mécanicien naval, du coup, aller en mécanique l'année prochaine.
Et moi, d'aller en pêche, donc aller en bac pro pêche en première année, devenir patron s'il le faut.
Non. Tous les deux, vous êtes originaires d'où ?
Alors moi, je suis d'Avignon.
Moi, je suis de Nantes.
Est-ce que dans votre famille, vous avez des personnes qui sont dans ces métiers-là et qui vous ont donné l'envie ? Comment est-ce qu'elle est venue, cette envie de faire ces métiers de la mer ?
Ben moi, c'est mon père. Il travaille dans les travaux maritimes. Quand j'étais venu avec lui pour voir comment il travaillait en mer, même sur les fleuves, ça m'a beaucoup plu. Du coup, ben, après, je suis parti au lycée. Et voilà, CAP et après bac pro.
Et moi, c'était mon grand-père. Et, il était mécanicien de véhicules. Du coup, je touchais un peu au moteur et tout ça. Ça me plaisait pas trop les études, donc je préférais venir là et faire ce qui me plaisait.
Mais moi, j'ai une question quand même, parce que là, c'est une journée idéale. Là. On a grand soleil, il fait pas froid, la mer est calme. Mais ça vous fait pas un peu peur d'aller sur une mer un peu démontée ou
Non. Du moment où on fait ce métier, faut être prêt à y aller dans n'importe quel temps. Peu importe ce qu'on fait, il faut y aller, quoi. Donc, peu importe les risques, on y va.
Sylvain Pellegrin, directeur du lycée professionnel maritime, de son centre de formation par apprentissage et du pôle de formation pour adultes.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet établissement ?
Je suis rentré dans cet établissement en 1989. La structure que je pilote et qui est une structure relativement ancienne, elle existe depuis 1851. Elle trouve son histoire dans l'aventure d'un chapelier qui est confronté à des difficultés, qui fait fortune grâce à la navigation et qui est confronté à une difficulté familiale. Ce monsieur qui s'appelle Paul Bousquet, d'où le nom de l'établissement, prend conscience des risques du monde maritime et décide de léguer sa fortune à un établissement scolaire qui formerait les marins orphelins de la marine. Alors qu'est-ce que c'est l'enseignement maritime ? C'est le petit poussé des systèmes d'enseignement que vous devez connaître. Tout le monde connaît bien évidemment l'éducation nationale. Beaucoup encore l'enseignement agricole. En revanche, l'enseignement maritime, c'est 12 établissements répartis sur toutes les façades littorales françaises, avec des lycées professionnels et une école nationale supérieure, elle aussi répartie sur 4 sites. Voilà. Donc, nous formons des navigants. C'est toute la particularité de notre enseignement. Du côté de l'éducation nationale ou de CFA, on trouve des choses très sympas, par exemple des bacs pro maintenance nautique, mais eux sont plutôt orientés sur la réparation, sur l'entretien, la maintenance. Alors que nous mettons les femmes et les hommes qui vont être sur ces bateaux et qui vont naviguer, qu'ils soient sur le pont, qu'ils soient des exécutants ou en responsabilité, ou qui sont à la machine dans les mêmes fonctions.
Bonjour, donc je suis Sophie Poch, je suis la directrice adjointe du lycée depuis septembre 2020. Alors le lycée, il fait partie du réseau des lycées maritimes de France. Il dépend du ministère de la Transition écologique, donc c'est un lycée public. On forme à tous les métiers de la mer et notamment et particulièrement à tous les métiers embarqués de marins, du CAP au BTS. On a un gros internat de 140 places puisqu'on a des élèves qui viennent en gros de la frontière italienne jusqu'à Toulouse environ. Et après, on a aussi des élèves qui sont plus côté Lyon, Grenoble, même des fois des Parisiens. Enfin voilà, on draine des élèves de vraiment tout le bassin méditerranéen. et au-delà, puisqu'on n'est pas obligé d'habiter au bord de la mer pour être marin. Et c'est vrai que sur la façade méditerranéenne, il n'y a que 7. Après, il faut aller à Bastia, en Corse.
Ici, dans cet établissement, qui représente globalement chaque année 280 à 300 élèves et étudiants, nous formons sur 4 filières essentielles. Une filière dédiée à la pêche, alors du CAP jusqu'au bac pro, jusqu'au BTS pour ces profils-là. Nous avons une filière commerce qui est liée au transport de passagers, au transport de marchandises, avec une option spécifique qui est l'option plaisance yachting. Donc beaucoup de jeunes gens, encore une fois, qui vont travailler sur des navires à pavillon un peu exotiques, avec des contrats de travail qui s'éloignent beaucoup de la législation française, mais qui gagnent très bien leur vie, et qui font une forme d'hôtellerie de luxe flottante de plein air. La troisième filière, c'est celle des cultures marines. Donc, à proximité du bassin de Thaux, les cultures marines, il y a la conchiculture, qui pèse beaucoup dans l'économie locale, mais aussi toute l'aquaculture, la pisciculture, etc., dans la verniculture, bref. Des tas de choses qui offrent dans ces CAP et BAC et BTS également la possibilité de s'ouvrir à beaucoup d'avenir professionnel, puisque je retrouve des anciens élèves un peu partout dans le monde, certains qui élèvent des perles, d'autres qui sont poissonniers, d'autres qui sont traiteurs ou qui sont simplement conchiculteurs. Dernière filière, c'est la filière électromécanicienne marine. Alors là, ce sont des jeunes gens qui sont sur les machines marines, avec des jeunes gens qui vont travailler sur de la prévention et de la maintenance des gros navires. Puisque s'ils ne font pas très bien leur boulot, ben, un navire qui s'arrête en mer, ben, ça peut générer très vite une catastrophe écologique ou une catastrophe humaine. Donc voilà, beaucoup d'anticipation dans le métier qui va devenir le leur.
Bah là, on est 3 générations en fait, de D'accord. plaisance.
On va commencer du plus ancien au plus jeune.
Mais moi, c'est Fage la Villa Maëlys. J'étais en terminale plaisance l'année dernière. J'ai passé du coup mon bac plaisance l'année dernière. Et là, je vais rentrer dans 2 semaines dans la Marine nationale.
Moi, c'est Romane Tayat Bonami, en première plaisance.
Et moi, c'est Sohib Amsi. Je suis en 3e année, du coup, en filière plaisance. Et j'ai pour but et projet d'être capitaine de yacht dans les années à venir. Et c'est l'un de mes rêves actuellement.
Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses encore comme chemin pour réussir à devenir capitaine de yacht ?
Alors tout d'abord, dans le maritime, il y a certains grades à avoir. Tout d'abord, du coup, ici au lycée de la mer, on nous donne du coup le capitaine 500. C'est un diplôme franchement qui est bien, très très bien, qui est très polyvalent. Et pour l'activer ce diplôme, il faut effectuer d'abord 6 mois en tant que matelot, ensuite 1 an en tant que capitaine 200, donc piloter des navires jusqu'à 24 mètres environ. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces 1 an en tant que capitaine 200, on va aider notre capitaine 500 qui, lui, du coup, nous permettra de piloter des navires jusqu'à 55 mètres. Moi, je pense, j'espère, d'ici 3-4 ans, espérer valider tous mes diplômes et réussir à atteindre mes objectifs.
C'est quoi qui te fait rêver dans ce métier ?
Moi, il faut savoir que moi, ma plus grande passion, c'est les voyages. Il faut savoir aussi que j'aime bien le côté luxe, côté un petit peu bling-bling, on va dire. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Du coup, ça regroupait tous ces aspects-là et bien pouvoir aussi mettre de côté, donc c'est plutôt pas mal.
Moi, j'ai pour projet, en tout cas, d'aller dans les navires à passagers ou alors passer mon BTS, donc qui se passe aussi dans ce lycée et qui peut nous ouvrir des portes et d'entrer avec plus de facilité dans l'école, je crois, de la marine marchande et pour passer du coup le capitaine 3000, donc là, c'est beaucoup plus au-dessus. Donc après, peut-être aussi pour les bateaux de croisière. Ça, c'est l'ultime.
Une vie de voyage aussi.
Bah, c'est un petit peu ce qui fait rêver tous ceux qui sont dans le lycée et qui veulent être sur la mer. C'est sûr, c'est ce qui fait rêver voir le monde.
Et toi, alors, t'as fini tes études au lycée de la mer ?
Là, du coup, comme je disais, je vais rentrer dans 2 semaines dans la Marine nationale à l'école de Mestrins à Brest pour faire la spécialité de navigateur timonier. Un navigateur timonier, ça va être tout ce qui va se passer à la passerelle. Donc, gérer la route du bateau, tracer les cartes.
Ça consiste en quoi, en fait, enseigner la navigation ?
Bah, leur apprendre, en fait, à s'orienter, en fait, en mer, à partir des cartes marines ou des documents officiels, et tout en respectant les règles de sécurité, les règles aussi de navigation internationale, un peu comme le code de la route. Et donc voilà, avec plein de techniques différentes.
Là, ce qu'on est en train de faire, en fait, le professeur nous a donné un exercice de cartographie. On peut voir qu'on a 3 phares avec un relèvement compas. Il faut savoir qu'il y a 3 types de relèvements. Il y a un relèvement compas, un relèvement et un relèvement vrai. Un relèvement compas, en fait, c'est un relèvement qui est en fonction du nord magnétique. Parce qu'il y a deux nords, il y a le nord magnétique et le nord vrai. C'est deux. Le nord magnétique, il bouge souvent, donc il faut lui appliquer une correction afin d'avoir un nord réel, qui est celui qu'on trouvera sur les cartes. Là, il nous donne trois relèvements en fonction de trois points. Donc, moi, je m'appelle Chad Chebli, je suis en première plaisance au lycée de la mer Paul Bousquet à 7. Je suis arrivé au lycée d'une manière assez peu conventionnelle. En fait, j'avais beaucoup de problèmes dans ma famille, dans mon entourage. Donc, avec l'aide sociale à l'enfance, on m'a proposé un séjour de rupture avec une association qui est basée à 7, qui s'appelle Grandeur Nature ou La Parole des Enfants. Et en fait, eux, ils réalisent des séjours de rupture sur un voilier pendant 10 mois autour de l'Atlantique. Égale relèvement vrai. La variation qui est composée de la déclinaison magnétique. Du coup, en partant avec eux, je suis tombé complètement amoureux de la mer, de la navigation et de la voile qui fait bouger le nord magnétique. Et la déviation, c'est les masses métalliques du bateau qui attirent l'aiguille du compas. Une fois qu'on a ajouté tout ça, on trouve donc là, par exemple, le phare du four qui a 80 degrés, plus donc la variation qui a moins 3 degrés, on trouve du coup 0,77 degrés.
T'es parti où avec le voilier ?
Je suis parti de 7. Dans un premier temps, je suis parti 2 semaines en juillet 2023. On est parti faire un mini stage en Corse pour voir, en fait, parce que partir 10 mois avec différentes personnes que tu ne connais pas du tout, c'est très compliqué et il faut faire un stage quand même pour savoir si on est apte déjà à la navigation, parce que la plupart ne connaissaient absolument rien à la navigation, et moi y compris. Je savais même pas qu'on pouvait poser le pied sur un bateau comme ça. Et après, on est parti de 7. On a traversé Gibraltar. On a fait ensuite des petites îles tout autour de l'Afrique. Donc, on a commencé par l'archipel des Canaries. On a fait les îles principales. Et on est surtout descendu dans les îles pour randonner, faire découvrir en fait le pays, la population. En fait, apprendre qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que le mode de vie européen, il y a plein d'autres modes de vie et plein d'autres façons d'appréhender en fait la vie et tout ce qu'il y a autour.
Du coup, comment est-ce que vous vous appelez tous les deux ?
Moi Ryan.
Moi Enzo.
D'accord. Vous êtes en quelle filière ?
En CAP Matelot.
Et c'est quoi qui t'attire dans la marine marchande ?
Un peu tout. Conteneur, roulier c'est pour les voitures, et voilà.
Ben moi, le petit métier, la pêche.
Tu es originaire d'où ?
De Narbonne, enfin pour la Nouvelle.
T'as de la famille qui est dans les métiers de la mer ?
Ouais. Mon père et mon oncle, c'est une passion.
Là, au niveau du CAP, vous êtes en train de passer une épreuve pratique. Est-ce qu'il y a d'autres épreuves pratiques tout au long de l'année que vous avez passées ou que vous allez passer ?
Oui, il y a les épreuves de ramendage.
Bateautage,
c'est les nœuds, les filets, les épissures. Et ramendage, c'est le filet.
Bon. Regarde, c'est coupé.
C'est bon, son tour se passer.
Là, il faut que je la passe comme ça ou de l'autre sens ?
Non, déjà, t'as pas été mal parti.
Voilà, tu vois ? C'était de ton sens.
T'as passé au-dessus, là.
Non, je peux passer au-dessus, j'ai passé un.
Si, regarde. Moi, si je regarde, mon premier, il est là.
Monsieur, le noir, il va sous le noir ou c'est le blanc qui va sous le noir ?
Ça dépend quel est ton point de départ.
Ah ouais, non, c'est bon, attendez, c'est bon. J'ai dit, ça m'a fait penser.
Donc, je m'appelle Hugues Anthony. Donc là, ça fait un an que je suis au professeur ici, au lycée. Donc avant, j'ai fait la pêche, mais vraiment que de la pêche. Donc c'est pour ça qu'on vient montrer aux jeunes la profession.
Ok. Donc vous étiez pêcheur ici, en Méditerranée ?
Non. J'ai fait 16 ans en Nord-Écosse. J'ai fait 4 ans la pêche côtière en Atlantique. J'ai fait 8 en Afrique. Et après, j'ai fait 5 ans l'océan Indien.
Donc vous avez des élèves qui en quel niveau ?
Un peu de tout. Donc j'ai le CAP, j'ai de la plaisance, j'ai la mécanique aussi. Et sinon, j'ai les bacs.
Et là, la matière que vous leur enseignez,
Madelotage. Qu'ils sachent à peu près comment faire une épissure, des nœuds.
Ouais, bonjour, je m'appelle Maxime Dichino. Je suis élève en CAP deuxième année, matelot.
Ok. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
On fait notre épreuve du CAP en ramandage. Le ramandage, ça consiste à faire les réparations de filets. Quand il y a des trous, on le recoue.
Donc tu dois prendre un fil spécial ?
Non, les bobines ici, et avec une aiguille.
J'ai perdu l'habitude à 3 tours.
Non, ils sont trop durs, ceux-là.
Ouais. Je suis à 4. Et même, genre, la technique, elle est plus facile.
À 3 ?
À 4 ?
Ah oui. C'est quoi la consigne ?
La consigne, en gros, c'est de rentrer les 3 brins qu'on a défaits dans le bout, qui n'est pas défait, du coup. Okay. Pour que ça fasse une épissure. Et en gros, c'est pour amarrer les bateaux et tout ça. Et c'est pour que, normalement, la corde, elle est incassable.
Okay.
Normalement.
Si on sait bien faire.
Oui. Si elle est bien faite, si elle est bien serrée et tout ça.
Vous êtes combien de filles en tout au lycée ?
20, je crois, dans le lycée en tout. D'accord. Avec les externes et les internes. Sur 270 garçons, je crois.
Et ça va ?
Ouais, non. Ça va. Si, ça va, en vrai. Enfin, ça dépend pour les filles. Oui. Si tu montres que t'as un fort caractère et tout ça, ça va.
Sinon,
ouais, sinon ça te mange vite.
Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici dans le lycée et dans cette formation là au bout des 2 années ?
Les matières professionnelles, comme la navigation là, ce qu'on fait aujourd'hui. Et après oui, les ramendages, le matelotage, les matières comme ça.
Ça va, c'est bien. Matière générale aussi, c'est bien. Ils nous apprennent, ils sont à l'écoute, ils sont. Bon, c'est des bons profs, c'est bien.
Toi, là, enfin, tous les deux, dans votre cursus de CAP, vous avez combien d'heures de matière professionnelle et combien d'heures de matière générale, à peu près, dans l'emploi du temps ?
6 heures, à peu près. Matière pro. Après, le reste, c'est des matières générales. Matière générale, anglais, français, mathématiques, physique, chimie, SVT, histoire.
Vous avez toutes les matières ?
Ouais.
Je m'appelle Monsieur Rey, je suis enseignant en mathématiques.
Vous êtes au lycée de la mer depuis longtemps ?
Je suis au lycée de la mer depuis 1 an et demi, maintenant c'est ma 2e année ici. Et avant j'étais dans un lycée agricole. J'ai passé le concours au ministère de l'Agriculture. Et ça s'appelle PLPA2 et c'était bivalent maths, physique, chimie.
Est-ce qu'il y a des orientations et des spécificités du fait que vous enseignez dans des filières maritimes ?
Disons qu'en maths, on essaye toujours, que ce soit agricole ou en maritime, on essaie toujours d'orienter nos exercices par rapport aux options, quoi. Donc si c'est l'ostréiculture, ça va être par rapport aux huîtres ou des choses comme ça. Si c'est la pêche, on va voir par rapport à ça. Enfin.
Vous arrivez à les enrôler, en fait, on va dire, dans vos enseignements ? C'est plus difficile ?
Non, c'est très difficile. C'est très difficile et quelque chose qui se pratique depuis longtemps dans l'enseignement maritime et qui se pratique moins en agricole, c'est des cours de co-intervention où on est, où moi j'interviens avec un prof technique. Et donc, lorsqu'on intervient tous les deux, moi j'apporte un peu mon savoir en mathématiques sur, par exemple, les tracés de route sur les cartes avec les angles, etc. Et là, les élèves sont beaucoup plus motivés pour utiliser des mathématiques. Parce que ça concerne très directement leur activité professionnelle.
Qui est dans la salle de prof ?
Donc il y a Nicolas Cabmal qui intervient sur les formations culture marine. Sylvie Mimosa aussi qui intervient en biologie, océanographie. Stéphane Petit, lui aussi, donc il intervient avec les formations, les BTSA, donc c'est aquaculture aussi, matière professionnelle principalement. Gérald Garcia, donc lui c'est plus un enseignant en mécanique marine, donc il intervient avec les classes d'électromécaniciens marines. Moi, j'interviens sur la partie navigation, théorie et pratique.
Je m'appelle Aïcha Roux, j'enseigne la navigation au lycée maritime depuis 7 ans. maintenant. Voilà, j'interviens avec plusieurs classes de formation initiale, les secondes plaisance, les terminales pêche et les BTS première année, voilà, pêche et gestion de l'environnement marin. J'ai commencé donc par un baccalauréat économique et social, donc filière générale. Et bien plus tard, j'ai décidé de changer de domaine. Et donc, j'ai d'abord fait une transatlantique à la voile. Et ensuite, j'ai intégré donc l'ENSM, École nationale supérieure maritime de Marseille. J'ai été sélectionnée sur dossier pour faire une formation en 3 ans, voilà, monovalent passerelle. C'est-à-dire que ça permet de conduire des navires de taille illimitée, mais pas de les commander.
Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est ?
Alors là, nous sommes dans une pièce qui est équipé d'un simulateur de navigation. Il y a 5 postes élèves qui permettent de simuler la navigation telle qu'on pourrait la vivre en étant situé à la passerelle d'un navire. Donc on a un visuel, 3 écrans qui nous permettent d'avoir un visuel sur 360 degrés, donc tel qu'on l'aurait dans une passerelle de navigation.
Là, ici, il y a le radar.
D'accord.
Donc, qui nous aide à nous repérer. Et à repérer surtout les autres navires.
Donc toi, t'es où sur le radar ?
Donc là, moi, je suis au milieu, là.
Oui.
Là, c'est ma distance dans 6 minutes. Dans 6 minutes, je serai à ce point-là. Okay. Donc là, je dois bientôt changer de cap. Car là, je suis dans un chenal, donc là, dans un port. Ici, c'est ma carte numérique.
D'accord.
Qui va me permettre de faire ma route. Donc là, j'ai placé des points. À chaque point, je dois changer de cap. Ensuite, au milieu, j'ai mon pilote automatique. Après, je peux gérer mes lumières. J'ai mes informations générales. Là, c'est toutes mes informations moteur.
Donc là, votre but, c'est de conduire, de sortir du chenal ou de...
Là, on est rentré dans le chenal.
Vous êtes rentré, d'accord.
Et le but, c'est d'aller se mettre à quai à la fin.
Tu sais où c'est, quelque chose de fictif ou c'est un vrai lieu ?
C'est un vrai lieu, c'est le port de Rotterdam.
Alors bonjour, Nicolas Capmal, enseignant de culture marine. Donc actuellement là on se retrouve au MAS Ostréicole, en compagnie des élèves de la classe seconde 3 culture marine. Le MAS se compose de différentes parties. Donc nous avons une chaîne de détrocage où on vient nettoyer le coquillage. Nous avons la zone avec les bassins de purification. Ensuite nous avons une zone de calibrage et ensuite la zone expédition, le coquillage à partir pour la vente pour le client. Voilà. Alors là ils sont sur la zone détrocage, donc on a été sur l'eau ce matin tirer des coquillages qui sont collés sur corde et là ils sont en train de détroquer. Donc détroquer c'est séparer les huîtres les unes entre elles, les nettoyer avec un couteau à détroquer, donc tout ce qui est algues, tout ce qui est capteur, enfin, tout ce qui s'est capté sur l'huître pour pouvoir la nettoyer et ensuite la calibrer pour qu'elle puisse repartir après dans des pochons et remis à l'eau. Le coquillage, une fois qu'il est travaillé, on en arrive un petit peu à le traumatiser, donc on le remet à l'eau pour qu'il se refasse une petite santé. Et ensuite, on le calibre et on le met en zone de purification dans des bassins pour la vente.
Ça veut dire quoi en zone de purification ? Qu'est-ce qui se passe dans le bassin ?
Alors, en zone de purification, c'est des bassins avec du microbulage ou des UV. Afin d'éliminer les bactéries pour que l'huître puisse être consommée par les gens, en fait, voilà, pour qu'il n'y ait pas de soucis ensuite derrière.
Alors moi, je m'appelle César, j'ai 16 ans, je suis en seconde bac pro culture marine.
Moi, je m'appelle Nolan Zdanovic, j'ai 15 ans, je suis en seconde culture marine, en bac pro. En vrai, c'est bien, mais c'est fort répétitif, en fait, le métier.
Oui, voilà.
Alors, j'aimerais bien rester dans le lycée parce que j'aimerais bien faire un truc dans la filière-là, mais pas ostréiculteur.
Moi, plus tard, je vais être aquariologiste.
Moi, je m'appelle Kélian, j'ai 19 ans. Je suis élève de Terminal Méca.
Ça t'amène à quoi, Terminal Méca?
Ben là, je passe mon diplôme même pour passer le chef 750 kW pour finir mécanicien embarqué ou électricien embarqué. Après, nous, on a eu l'occasion d'embarquer déjà grâce à nos stages. On a effectué 3 stages. Premier, souvent, ils n'ont pas été embarqués. Puis à partir de la première, on a beaucoup été embarqués. Moi, j'ai été embarqué 2 fois. Une fois sur un ferry, une fois sur un porte-conteneur.
Et alors, sur le porte-conteneur ou sur le ferry, ton rôle, c'est quoi?
Nous, en sortie d'école, ce qu'on va pouvoir être, ça va être nettoyeur. Sur les ferries, on nous appelle les nettoyeurs. En gros, nettoyeur, c'est on va être un peu le matelot de la machine. On va s'occuper des petites fuites, on va permuter les filtres, faire les petites révisions, nettoyer, passer le balai, passer la peinture. Et tout en apprenant en même temps avec les personnes compétentes, donc ceux qui sont déjà gradés. Et voilà.
Gérald Garcia, professeur de machine marine pour la formation des EMM, électromécaniciens de marine. Les cours théoriques et pratiques. À ma formation, je suis un ancien marin de la marine nationale. Donc j'étais sous-marinier, j'ai une licence en énergie nucléaire. Donc voilà. Alors, on a quelques bancs pédagogiques, des bancs frigo. Donc, c'est exactement une installation qu'on pourrait retrouver à bord d'un bateau, pour des chambres froides par exemple. Pour la conservation des vivres ou alors peut-être, pourquoi pas, des poissons pour être un bateau de pêche. Et on a un banc hydraulique hein, également. Voilà, on va pouvoir s'entraîner sur des TP. Voilà. Leur formation elle est assez diversifiée quand même. Il n'y a pas que le moteur, il n'y a pas que de la mécanique moteur. C'est quand même une formation assez complexe. Il y a beaucoup de domaines. Quoi.
Je m'appelle Léo, j'ai 18 ans et je suis élève en terminale électromécanique.
Qu'est-ce que tu veux faire après toi?
Bah, du coup, là, avec Parcoursup et les profs qui nous ont accompagnés, je vais essayer de rentrer à l'EMEA, qui est l'école d'application de l'énergie, l'école d'application militaire de l'énergie atomique, qui me permettrait de rentrer dans les sous-marins et de pouvoir faire atomicien de propulsion pour les sous-marins nucléaires d'attaque qui sont situés à Toulon. Aussi, ce qui m'attire un peu sur ce milieu, c'est la complexité de comment marchent ces centrales nucléaires à l'intérieur des sous-marins et aussi toute la difficulté. Parce qu'à chaque embarquement et à chaque débarquement, on est retesté sur nos qualités, nos qualifications. Et à peu près tous les 3-4 mois, on peut être inapte et ne plus pouvoir naviguer. Donc ça met vraiment un gros challenge et avoir 2 à 3 ans pour apprendre tout ce que les gens ont mis des dizaines d'années à comprendre. Et aussi, ce qui est bien, c'est que à chaque fois qu'on va sortir d'immersion, on ne sera pas où on est forcément et on va découvrir des nouveaux endroits.
Alors, moi, je m'appelle Joël Moulis. Je suis un élève qui a fait, en fait, le bac pêche, donc qui a eu le capitaine 500, et qui est revenu en formation électromécanicien pour avoir la polyvalence, du coup, le 750 kW et le capitaine 500. Et voilà, hein. Okay. À vous tous, les gars. Uh-huh.
Dominique Lecoq, je suis en bac pro MM.
Moi, je suis Marley. Je suis dans la classe de première MM avec mes camarades. Bon, on espère passer en terminale, tous. Et plus tard, aller en BTS, on verra.
Alors toi, tu voudrais aller en BTS?
Oui.
Vous aussi?
L'armée, moi.
Et moi, non, je voudrais arrêter après. Parce que je préférerais aller travailler. Parce qu'en pêche, on n'a pas besoin d'avoir des plus gros diplômes que 750 kW et un capitaine 500. Peut-être 3000 kW à la rigueur dans quelques années. Mais je ne veux pas faire plus d'études que ça. Ça me suffit. Je voudrais aller travailler maintenant, moi.
Et toi?
Moi, je me vois continuer les études au maximum. Peut-être jusqu'au mécanicien illimité. Après, j'étais encore avec la branche de l'armée. Et ensuite, j'essayerai d'aller au commerce et plus tard sur les bateaux de croisière en fin de carrière.
Là, vous êtes en train de faire quoi?
On prépare le moteur pour une peinture et après une remise en marche.
Dans votre formation, vous avez combien d'heures de matière professionnelle et c'est quoi vos disciplines pro que vous avez dans votre formation?
Alors, à peu près en heure, on est à 18 heures semaine à peu près. Alors, il y a l'électricité, on fait beaucoup d'électricité. Du coup, la mécanique théorie et pratique. En mécanique, on voit vraiment beaucoup de sujets. On voit par exemple les frigos, enfin toutes les installations de machines sur un navire. Et après, on voit aussi la soudure à l'arc, la brasure, enfin tout ce qui peut s'effectuer sur les navires. Voilà, c'est tout ce qu'on fait.
Ok.
Donc électricité, mécanique, avec tous ces champs-là.
Voilà.
Et autre chose où...
Soudure parfois, c'est mais soudure. C'est vraiment...
Atelier soudure, on touche vraiment à tout. Parce qu'un mécanicien à bord doit savoir faire beaucoup de choses. Ouais. C'est un couteau suisse.
Ouais. Ok. C'est une des plus compliquées ici. Hein. Ouais. J'étais, moi qui étais en pêche, je vois vraiment la différence parce que c'est vraiment beaucoup plus de charge en tant que mécanicien. Il y a beaucoup de choses, il faut beaucoup réfléchir. C'est, les situations ne sont jamais les mêmes. C'est... voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, quoi. Okay. Bien apprendre et surtout réfléchir, réfléchir à tout.
Il y a les formations aussi qu'on a à côté. Parce qu'en tant que capitaine, ben, on est du coup responsable de tout. Donc s'il y a un feu sur le bateau, il faut qu'on soit capable de gérer l'équipe. Et bah, d'éteindre un feu aussi, si c'est nous qui finissons dans la cale où il y a un feu, bah, on prend vraiment la place de pompiers. Quoi. Les pompiers ne sont pas sur place, donc les pompiers, c'est nous.
Ils nous font un jour de théorie sur les extincteurs, comment on éteint un feu, et tous les équipements qu'on utilise, pompiers légers, pompiers lourds. Et aussi comment évacuer un local en feu et rempli de fumée. Et après, le deuxième jour ou le reste de la semaine, ça dépend comment ils font la formation. Ils nous équipent en pompiers par groupe de deux. Il y a pompier 1, pompier 2. Pompier 1, c'est celui qui va être avec la lance et qui va aller au contact du feu et qui va l'éteindre. Et le pompier 2, c'est celui qui va gérer le mou de la lance pour pouvoir avancer... On est dans le noir et il y a plusieurs aussi procédures. Il faut qu'on teste les portes pour savoir si elles sont chaudes et si on peut les ouvrir. Les plafonds, s'ils sont chauds et qu'on a des risques de se brûler. Si je me souviens bien, c'est du feu au gaz. On n'est pas loin des 200 degrés quand on est à l'intérieur du caisson. On a, ou plus, ça dépend. C'est selon le temps que reste le feu. Et après, on a aussi des instructeurs à l'intérieur qui sont là, du coup, pour nous évaluer. On est totalement équipé en pompiers quand on le fait, c'est-à-dire qu'on a les tenues imifugées, on a une cagoule, on est en bleu imifugé et on a les appareils respiratoires, ce qui nous fait quasiment 14 kilos à porter et à se déplacer, en sachant qu'on a des échelles et qu'on doit se déplacer au ras du sol pour éviter les fumées.
Quand tu l'as fait la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti ?
C'est très stressant, très étouffant, parce que déjà, on a l'appareil respiratoire qu'on n'a pas l'habitude de gérer. L'air, il est très froid parce qu'il sort de la bouteille et il est très sec. En plus de ça, tout autour de nous, il fait super chaud, super lourd. On a un peu de fumée partout, on ne voit pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, qu'on appelle le rôle de l'aboyeur, qui va relier les informations entre le poste de contrôle qui va vérifier l'avancée du feu et nous à l'intérieur, comment on avance. Et en même temps, il y a la personne qui est derrière nous, du coup, qui est le pompier 2, qui va crier pour avoir du mou ou si on doit reculer parce qu'on est coincé dans un cul-de-sac. Et tout ça, c'est très stressant. En plus d'avoir les 14 kilos qu'on doit ramper et se déplacer, avec guider la lance. La lance qui est en plus sous haute pression, donc qui est dure à faire prendre des angles ou même à descendre l'échelle avec les bouteilles, c'est vraiment compliqué.
Alors, je suis Mathieu Oliveras, je suis formateur sécu au lycée de la mer.
Donc là, la formation qu'ils sont en train de passer, qu'est-ce que c'est ?
Donc en fait, là, ils sont en train de passer le CAERS. Donc le CAERS, c'est le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage. Savoir utiliser des radeaux, savoir utiliser des embarcations, les mettre à l'eau, et puis gérer toute une évacuation d'un bateau en cas d'abandon.
On a aussi la formation médicale, donc en cas de problème, une personne qui se sent pas bien, qui se fait mal, ben, on doit être capable de pouvoir faire les gestes de premier secours, pouvoir prendre la place du secouriste.
Le TIS,
donc ça c'est...
Ouais. Test individuel de survie, où on apprend du coup la survie en mer, où on enfile les combinaisons de survie, où on doit l'enfiler le plus rapidement possible, donc après faire des exercices de sauter à une certaine hauteur, se mettre en étoile de mer tous ensemble... Vraiment apprendre l'essentiel sur la survie en mer.
La formation, pour moi, la plus dure et pour beaucoup, le CGO, Certificat Opérateur Radio. Donc en gros, on va travailler sur la première semaine, on va travailler sur la théorie du coup, de tout ce qui est la télécommunication par radio. Donc, il faut savoir du coup qu'en mer, on n'a pas forcément de réseau avec les téléphones. Donc, on va beaucoup se servir de radio. C'est très important cette formation. Pourquoi ? Parce que, admettons, s'il nous arrive un problème en pleine mer, que ce soit un chavirement, que ce soit un incendie ou que ce soit une explosion, dans le pire des cas, ben, il faudra savoir contacter. Il faut toujours contacter la cavalerie, on va dire. Et du coup, pouvoir se signaler et signaler le cross, du coup, qui est le, on va dire, les sauveteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, dans le maritime.
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette formation-là que vous avez de bac pro, et peut-être après pour toi le BTS, est-ce que vous avez l'impression d'être bien formé, d'être prêt, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vous donne confiance en vos capacités de futur navigateur?
Bah, on a quand même, on a quand même très peur. Enfin, j'ai peur quand même, parce que forcément, c'est du stress avec tout ce qu'on a et tout. Mais en même temps, moi, j'ai envie d'apprendre et je sais que je me sens bien formée. Moi, dès que j'ai vu, je suis arrivée et que j'ai vu toutes les matières, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de calé, bien mis, bien posé. Donc oui, on est bien formés.
C'est pour ça qu'on aime ce milieu, c'est que c'est très varié. On peut faire du remorquage, on peut faire du porte-conteneur, on peut faire du yachting, on peut faire de l'exploration, donc les ravitailleurs qui vont en Antarctique. Ça, c'est un milieu qui me fascine. Et donc honnêtement, avec toutes ces matières, toutes ces formations qu'on passe, franchement, il y a de quoi. On a une très bonne valise pour commencer.
On est en lycée professionnel, puisqu'on a très peu d'élèves en BTS. Après, tout le reste, c'est CAP et Bac Pro. Dire que, voilà, arrêter avec une image de lycée, de seconde zone, de voie professionnelle par défaut, et effectivement témoigner que sur le lycée de la mer, les élèves vont trouver du travail, vont trouver un travail bien payé, ils ont des possibilités de promotion sociale, ça c'est important. Ils trouvent aussi un cadre pour ceux qui en auraient besoin, parce que tout le monde n'a pas besoin, certains l'ont déjà. Et c'est vrai que les lycées pro, ils ont souvent une mauvaise image, qui est souvent, je suis presque émue, qui est souvent dévalorisée, alors que les parcours sont vraiment là. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie place pour ces jeunes-là dans une carrière professionnelle, dans une reconnaissance aussi pour ça. Et ce qu'on peut dire aussi pour finir, c'est que pour être marin, on n'a pas besoin d'être d'une famille de marins. On peut très bien le devenir sans y connaître quelque chose, seulement parce que bon, on aime la mer, la pêche ou autre. Et voilà, c'est une vraie carrière qui offre de bonnes opportunités en tout cas.
Face aux enjeux actuels de transition écologique, de sécurité ou de durabilité, les programmes des filières de bac pro maritime évoluent pour répondre au mieux aux besoins d'un secteur en constante transformation. Ainsi, ces lycées offrent une formation initiale et continue, solide, pour tous les navigants. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Sophie Pock pour son accueil chaleureux. Merci à tous les enseignants et les élèves qui m'ont expliqué avec patience les particularités de leurs études et de leur futur métier. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopée pour le mixage de l'émission. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt sur Cadécole.